5. Assis avec Othé dans l'obscurité apaisante, attendant que Roland te l'appelle, Jake réfléchissait à la scène qu'il avait eue sous les yeux, dans la pièce assombrie. À ça, et aux trois quarts d'heure interminables qui s'étaient écoulés avant que Roland te prenne conscience de son désarroi et le laisse sortir, lui disant qu'il lui rappellerait quand il serait temps. Jake avait été témoin de la mort de nombreuses fois depuis qu'il avait été tiré dans l'entre-deux-monde, et il avait fait avec. Il avait même fait l'expérience de sa propre mort, même s'il ne s'en rappelait pas grand-chose. Mais il s'agissait là de la mort d'un Camille, et ce qui était en train de se dérouler dans la chambre du surveillant lui paraissait juste totalement vain. Et sans fin. Jake regrettait de tout son cœur de ne pas être resté dehors avec Dinky. Ce n'était pas comme ça qu'il voulait se rappeler son ami expert en vanne et au sang parfois un peu chaud. Pour commencer, Eddie avait l'air plus qu'affaibli, allongé ainsi dans le lit du surveillant, la main dans celle de Susanna. Il avait l'air vieux. Et Jake détestait cette idée. Stupide. Ou peut-être que le mot c'était sénile. Sa bouche s'était affaissée sur les côtés, creusant des rides profondes. Susanna lui avait nettoyé le visage, mais la barbe de plusieurs jours sur ses joues lui donnait un air sale. Il avait des cernes violets sous les yeux, presque comme si ce salopard de Prentice l'avait frappé avant de l'abattre. Les yeux eux-mêmes étaient fermés, mais on les voyait rouler sans cesse sous le voile fin de ses paupières, comme si Eddie était en train de rêver. Et il parlait. Un flot continu de mots murmurés. Jake avait reconnu quelques-unes des choses qu'il avait dites et d'autres non. Certaines avaient un minimum de sens, mais pour la plupart, c'était ce que son ami Benny aurait appelé du « kikom », du n'importe quoi. De temps à autre, Susanna prenait un chiffon dans une bassine posée sur la table de nuit. Elle l'essorait et le passait sur le front et les lèvres desséchées de son mari. Une fois, Roland s'était levé, avait pris la bassine, était allé la vider dans la salle de bain, puis l'avait remplie de nouveau avant de la rapporter à Susanna. Elle l'avait remercié à voix basse, d'une voix parfaitement aimable. Un peu plus tard, Jake était allé changer l'eau à son tour et elle l'avait remercié de la meilleure manière, comme si elle n'avait même pas remarqué leur présence. « Nous y allons pour elle », avait dit Roland à Jake, « parce que plus tard elle se rappellera qui était là et qu'elle sera reconnaissante. » Mais comment en être sûr ? Se demandait maintenant Jake, dans le noir, devant la taverne du trèfle. Est-ce qu'elle serait vraiment reconnaissante? Si Eddie Dean se retrouvait sur son lit de mort à quoi, 25 ou 26 ans, n'était-ce pas la faute de Roland? D'un autre côté, sans Roland, jamais elle n'aurait rencontré Eddie pour commencer. Tout ça était trop compliqué. Comme cette idée des mondes multiples, avec un New York dans chacun, ça lui donnait mal à la tête. Gisant là sur son lit de mort, Eddie avait demandé à son frère Henry pourquoi il oubliait toujours de tirer la chasse. Il avait demandé à Jack Andolini qu'il l'avait frappé avec le méchant bâton. Il s'était écrié « Regarde ça, Roland, c'est gros blaire. Ce bon vieux George, il est de retour. » Puis, Suze, si t'arrivais à lui raconter celle de Dorothy et du bonhomme en fer blanc, je lui raconterais le reste. Et c'est alors que le cœur de Jake s'était figé. Je vise pas avec ma main. Celui qui vise avec sa main a oublié le visage de son père. À ces mots, Roland avait pris la main d'Eddie dans la sienne, et il l'avait serrée dans le noir, car on avait baissé les stores. « Si fait, Eddie, tu dis vrai. » Veux-tu ouvrir les yeux et voir mon visage, mon ami ?» Mais Eddie n'avait pas ouvert les yeux. Au lieu de ça, Ajay avait senti son cœur se glacer un peu plus. Le jeune homme, avec son bandage inutile autour de la tête, avait murmuré « Tout est oublié dans les corridors de pierre de la mort. Voyez les chambres de la ruine où les araignées tissent leurs toiles et où les grands circuits se taisent l'un après l'autre. » Après ça, il n'y avait plus rien eu d'intelligible pendant un moment. Rien que ce marmonnement incessant. Jake avait changé l'eau de la bassine et lorsqu'il était revenu, Roland avait remarqué son visage livide et ses traits tirés. Elle avait envoyé dehors.
« Mais, allez, vas-y, trésor, » avait dit Susanna. « Mais surtout fais attention. Il pourrait en rester quelques-uns dehors qui attendent leur revanche.
Mais comment je vais... »
« Je t'appellerai le moment venu, » avait répondu Roland en tapotant la tempe de Jack d'un de ses doigts rescapés de la main droite. « Tu m'entendras. » Jack aurait voulu embrasser Eddie avant de partir, mais il avait eu peur. Non pas d'attraper la mort d'Eddie comme un rhume. Il était bien trop mûr pour ses superstitions. Mais il craignait que même le contact de ses lèvres suffise à pousser Eddie dans la clairière au bout du sentier. Et alors, Susanna lui en aurait voulu. 6. Dans le couloir à l'extérieur, Dinky lui avait demandé comment ça allait.
« Vraiment mal. Vous auriez une autre cigarette ?»
Dinky avait haussé les sourcils, mais il avait donné une clope à Jake. Le garçon l'avait tassé contre son ongle de pouce, comme il avait vu faire le pistolero avec ses cigarettes sur mesure. Puis il avait accepté le feu que lui offrait Dinky et avait inhalé profondément. La fumée le brûlait toujours, mais plus autant que la première fois. Sa tête avait tourné légèrement, mais il n'avait pas toussé.
« Bientôt, je serai complètement rodé, » s'était-il dit. « Si je réussis à retourner un jour à New York, peut-être que je pourrai aller travailler pour la chaîne dans le service de mon père. Je suis déjà bon à la mise à mort. »
Il avait levé la cigarette à hauteur de ses yeux. Petit missile blanc avec de la fumée qui lui sortait de la tête au lieu du derrière. Le mot « camel » était écrit juste en dessous du filtre.
« Je m'étais juré de jamais faire ça, »
avait-il dit à Dinky.
« Jamais de la vie. Et voilà que j'en ai une dans la main. »
Il avait éclaté de rire. D'un rire amer, d'un rire d'adulte, et il avait frissonné en entendant le son sortir de sa bouche.
« Je travaillais pour un type avant de venir ici, » avait fait Dinky. « Monsieur Sharpton, il s'appelait. » Il disait toujours que jamais, c'est le mot que Dieu guette quand il veut rigoler un bon coup.
Jake n'avait rien trouvé à répondre. Il repensait à Eddie parlant des chambres de la ruine. Jake avait suivi Mia dans une chambre de ce genre une fois, en rêve. À présent, Mia était morte. Callahan était mort. Et Eddie était mourant. Il repensait à tous ces corps gisant là, dehors, sous des couvertures, tandis que le tonnerre roulait au loin, comme charriant des eaux. Il repensait à l'homme qui avait abattu Eddie, basculant sur le côté quand la balle de Roland l'avait achevé. Il essayait de se rappeler la fête de bienvenue qu'on leur avait organisée à Calabrine Sturgis, la musique et la danse et les flambeaux de couleurs. Mais la seule chose qui lui apparaissait clairement, c'est la mort de Benny Slightman, un autre ami à lui. Ce soir, le monde semblait fait de morts. Lui-même était mort et revenu vers l'antre de monde et vers Roland. Tout l'après-midi, il avait essayé de croire que la même chose pourrait arriver à Eddie, et quelque part il savait que non. Le rôle de Jack dans ce récit n'était pas terminé. Celui d'Eddie, si. Jack aurait donné 20 ans de sa vie, 30 ans pour ne pas y croire, pourtant c'était le cas. Il s'était dit qu'il avait dû le proguer. Les chambres de la ruine, où les araignées tissent leurs toiles et où les grands circuits se taisent l'un après l'autre. Jack connaissait une araignée. L'enfant de Mia était-il en train de contempler tout ce spectacle? En train de s'amuser de leur histoire? À taper du pied et à brailler comme un putain de fan de foot dans les gradins? Oui, je sais qu'il nous regarde, je le sens. « Ça va, gamin ?» avait demandé Dinky. « Non, ça va pas. » Et Dinky avait hoché la tête, comme s'il s'agissait d'une réponse parfaitement raisonnable.
« Eh ben, » s'était dit Jack, « il devait sans doute s'y attendre. C'est un télépathe, après tout. »
Comme pour souligner cette évidence, Dinky avait demandé où se trouvait Mordred.
« Vous ne tenez pas à le savoir, » avait répondu le garçon. « Croyez-moi. »
Il avait jeté sa cigarette à demi-fumée. Tout le cancer du poumon est là, dans le dernier quart, avait pour coutume de dire son père sur le ton de la certitude absolue, en tendant le doigt vers une de ses propres cigarettes, comme un vendeur de téléachat. Et il avait quitté le dortoir Corbett. Il était sorti par la porte de derrière, espérant éviter ainsi les groupes de briseurs anxieux, et ça avait été un succès. Il se trouvait à présent à Pleasantville, assis au bord du trottoir, comme un de ces sans-abri qu'on voyait à New York, à attendre qu'on l'appelle, à attendre la fin. Il avait pensé entrer dans la taverne, voir se servir une bière. S'il avait l'âge de fumer et de tuer des gens, il avait forcément l'âge de boire une bière. Peut-être juste pour voir si le jukebox marcherait sans pièces. Il aurait parié qu'Algul Ciento était exactement ce que l'Amérique allait devenir, selon son père, une société sans argent. Et ce vieux modèle, Seaberg, devait être réglé pour lancer la musique dès qu'on appuyait sur un bouton. Et il était persuadé que, s'il jetait un œil à la chanson numéro 19, il y trouverait « Someone saved my life tonight » d'Elton John. Il se leva, et c'est alors que vint l'appel. Il ne fut pas le seul à l'entendre. Ôté lâcha un couinement bref et douloureux. Roland aurait aussi bien pu se tenir en face d'eux. « À moi, Jack, et fais vite, il s'en va. »